France Inter.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Das sind die Sandinbehausen.
Radio Rosana Piperi.
Borussia Gäste in der Radio.
France Inter, le 18-20. Christelle Rebière.
Un jour dans le monde, ce soir, c'est un compte à rebours. Dans 100 jours, les Jeux Olympiques de Paris. Tout a commencé le 13 septembre 2017 avec l'annonce de Thomas Bach, le président du CIO.
Ladies and gentlemen, I have the great honor to announce the International Olympic Committee has simultaneously elected Paris 24, Los Angeles 28.
Voilà, plus vite, plus haut, plus fort. Si on devait adapter la devise de Pierre de Coubertin à ces Jeux 2024, ce serait plus sobre, plus économe, plus populaire. C'est l'objectif annoncé par la France. À 100 jours de la cérémonie d'ouverture, entre les Cassandres et les enthousiastes, on a voulu faire le point en comparant 2024 à Londres 2012, Rio 2016, Pékin 2008. Y aura-t-il des surcoûts, des installations abandonnées une fois la flamme éteinte? Quelle retombée économique? Pour quelle image d'ailleurs au final? Il s'agit de faire la fête et d'accueillir le monde, dit Tony Estanguet. Eh bien, on va essayer de chiffrer ces 29 jours extraordinaires. Bonsoir Pierre Rondeau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à la Sports Management School, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Le mantra de ces Jeux de Paris, c'est « les Jeux financent les Jeux ». Autrement dit, ça ne coûtera rien aux contribuables et pas de dérapage. On est sur un budget de 8 milliards 800 millions d'euros. On était parti lors de la candidature de la France sur 6,3 milliards. En fait, chaque Olympiade coûte finalement beaucoup plus cher.
À chaque fois, il y a un dépassement. Le taux moyen de dépassement entre le budget prévisionnel, bon, la candidature, et le budget final à la fin de l'événement, le taux de moyen de dépassement est de 167%.
167%.
Alors, chiffre à prendre avec des pincettes parce que le cap.
C'est à chaque fois comme ça?
Bah oui et non, parce que Pékin, par exemple, en 2008, le dépassement était de 1130% entre ce que les Chinois avaient prévisionné, budgété au moment de la candidature et le coût final de 32 milliards.
Ouais.
Donc on en est loin par rapport à ce qu'est Paris. Mais il y a effectivement quasiment à chaque fois un dépassement pour plein de raisons, parce que c'est compliqué d'anticiper 7 ans à l'avance, 8 ans à l'avance un budget. Mmh. Il peut avoir de l'inflation, il peut avoir des problématiques de sociales, sociétales, il peut avoir une augmentation des matières premières. Il peut avoir, le cas avec le Covid, des retards sur les travaux, donc une demande d'accélération. Et qui dit accélération dit rajout d'économie, rajout d'argent. Des problématiques de sécurité qui vont coûter plus cher, donc vont coûter plus d'argent. Oui. Donc bien évidemment, le dépassement arrive quasiment à chaque fois.
Quels ont été les jeux les plus chers ?
Pour le moment, ça reste Sochi pour l'hiver à, il me semble, 48 milliards et Pékin à 32 milliards.
Et les moins chers ?
Alors les moins chers, et on peut remonter.
Ça dépend, si on remonte loin,
si on remonte
évidemment.
Très longtemps, par exemple, les jeux les plus sobres d'un point de vue économique, oui, qui ont coûté autant de ce qu'ils ont rapporté, c'est les Jeux de Los Angeles en 84. Ils ont coûté 2 milliards, ils avaient prévisionné 2 milliards.
Bon, alors, on regarde les coûts ensemble. En fait, il faut faire la différence entre ce que finance le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP, qui est de l'argent privé, et ce que finance l'État via la Solideo. C'est la société de livraison des ouvrages olympiques, c'est ça ?
Alors effectivement, souvent, et c'est dit en termes de communication officielle par Tony Estanguet, les membres du COJOP ou les représentants politiques, les Jeux financent les Jeux seront sobres, les Jeux seront entièrement financés par la billetterie, le marketing, le merchandising. On est sur le budget du COJOP. Le COJOP, vous l'avez dit, c'est 4,4 milliards, 97% à fonds privés, via la billetterie, via le merchandising, via le sponsoring, via les droits TV. Et ça, effectivement, dans une moindre mesure, d'une certaine manière, les jeux sont autofinancés par ce qu'ils rapportent. Effectivement. À côté, on a la Solideo. La Solideo, c'est essentiellement fonds publics de l'investissement du structurel, le village olympique, les infrastructures olympiques, le Media Center, le bassin aquatique. Là, ça coûte de l'argent directement via l'apport public, via le contribuable. Alors, est-ce que ça coûte de l'argent ou c'est un investissement ? On peut aussi se poser la question. Mais on est sur la Solideo fonds publics et COJOP fonds privés. Le COJOP, ce sont les organisateurs des Jeux Olympiques, et effectivement, c'est essentiellement à 97% fonds privés.
Bon, mais là, le dérapage, il ne va pas forcément figurer dans le budget, c'est-à-dire tous les coûts induits, et en premier lieu, ceux de la sécurité pour la cérémonie d'ouverture et pour toute la journée des JO.
Encore une fois, des JO, oui, mais c'est la question qu'on se pose, est-ce que c'est un coût ou un investissement ? Est-ce que dépenser de l'argent pour assurer la sécurité avec plus de 15 millions de personnes personnes qui vont venir à Paris en août prochain pour assurer à ce que les yeux du monde constatent que la France est une terre sécurisée, si je puis dire. Est-ce que c'est un coût? Est-ce que dépenser de l'argent pour construire un village olympique qui sera réhabilité en logements et logements sociaux, est-ce que c'est un coût? Est-ce que construire un bassin aquatique en Seine-Saint-Denis où un jeune sur deux ne sait pas nager, est-ce que c'est un coût?
C'est difficile sémantique. De quantifier le retour sur investissement.
On est d'accord. En termes de retombées économiques, si vous mettez 1 million de personnes au sport, on estime qu'il y a un effet multiplicateur à 250 millions d'euros via une économie en termes de politique de santé publique, de lutte contre la sédentarité, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Donc, on espère, en tout cas, ils espèrent, les organisateurs, les promoteurs des Jeux Olympiques, qu'investir structurellement de l'argent, plusieurs milliards, pour ces Jeux, serait a posteriori une aubaine pour la santé publique, pour l'héritage, pour la pratique sportive, pour la renommée, pour la réputation, pour le tourisme aussi. Mais voilà, aujourd'hui, à l'instant T, si vous me posez la question, ça coûte de l'argent.
Est-ce que l'impact du tourisme, on peut déjà le mesurer?
Il est extrêmement...
La France est quand même déjà la troisième destination mondiale, alors ça ne va pas changer grand-chose.
Et d'autant
en fait.
Plus qu'on pourrait aussi préciser l'effet de ce qu'on appelle en économie l'effet de substitution et l'effet d'éviction. Les touristes culturels qui viennent à Paris en août, en tout cas l'été, ne vont pas venir cet été pour les Jeux Olympiques par peur des touristes sportifs et par peur de l'événement. Donc il y aurait aussi un effet de remplacement entre les touristes qui ont l'habitude de venir et ceux qui vont débarquer à Paris. Donc on peut aussi se poser la question de l'effet d'aubaine touristique. On nous dit, voilà, le monde entier va venir à Paris. Vous l'avez rappelé, le monde vient déjà à Paris.
Le monde vient déjà,
donc,
c'est ça.
Donc est-ce que c'est un gain? Est-ce que c'est un effet nul? Est-ce que c'est un effet négatif parce qu'il y aura une peur et une appréhension par rapport au jeu? Donc au final, une fuite en avant. Ce qu'on peut malgré tout préciser, c'est que le portefeuille moyen, en tout cas la dépense moyenne d'un touriste sportif est plus importante que la dépense moyenne d'un touriste culturel. On le constate par comparaison avec différents événements sportifs. On admet que le touriste sportif, dans l'euphorie d'une victoire, a tendance à plus dépenser, donc bien pour l'économie locale, qu'un touriste culturel.
On peut parler du prix des billets, parce que ça a été une grosse polémique il y a quelques mois. Une dernière fournée de 250 000 billets a été mise en vente ce matin. Au départ, les organisateurs ont beaucoup insisté sur des jeux populaires, avec 1 million de places à 24 euros. Alors, vrai ou faux?
Vrai, mais comme on en a 1 million à 24 euros, il faut compenser cette accessibilité par des places beaucoup plus chères à côté. C'est tout le paradoxe. On a effectivement un prix moyen à 50 euros, mais c'est ce qui signifie que si vous avez 1 million de places à 24 euros, vous avez aussi des places à 600, 700, 800, 900 euros.
Et là, on est plus cher que les autres, on est plus cher que Londres,
Non, encore une fois, c'est un peu moi, ce que je mets en avant et ce que je critique, c'est la communication. Parce qu'on est sur les standards olympiques, notamment vis-à-vis des Jeux de Londres. C'est la même équivalence. Dès lors que vous avez le COJOP, qui est autofinancé à 87% par des fonds privés, dès lors que le COJOP doit dégager 1,2 milliard d'euros de recettes billetterie, si vous mettez d'un côté la communication de jeux populaires avec des places à 20 euros, mais il faut que vous ayez 1,2 milliard de billetterie, mécaniquement, vous avez l'obligation de vendre des places à plus de 100 euros.
Alors, l'un des pays qui a le plus tiré profit des Jeux, c'est la Chine. Les Jeux d'été en 2008, Jeux d'hiver en 2022. Bonsoir Sébastien Berriot.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Pékin. En 2022, en plein Covid, c'était vraiment un gros défi.
Oui, alors c'est JO d'hiver 2022, on peut le dire, c'était pour les Chinois un véritable coup de poker, des Jeux organisés dans une bulle sanitaire inédite. Les plus grands experts du mouvement olympique prédisaient une catastrophe sportive et sanitaire. Finalement, tout s'est plutôt bien passé. L'épidémie a été maîtrisée pendant les Jeux. C'est vrai que les Chinois n'ont pas pu assister physiquement aux épreuves, mais grâce à la télévision, toute la Chine a vibré pour ces sportifs qui ont fini 3e au tableau des médailles. Le boycott lancé par plusieurs pays anglo-saxons, lui, n'a pas vraiment fonctionné. Lors de la cérémonie d'ouverture, Xi Jinping était entouré d'une trentaine de dirigeants internationaux. Le régime communiste a rempli ses objectifs grâce à ses manœuvres diplomatiques. Il a même réussi à faire oublier les sujets qui fâchent. La question des droits de l'homme, par exemple, n'a presque pas été évoquée pendant les JO.
Et en 2008, encore à Pékin, là aussi une opération positive pour la Chine?
Oui, parce qu'à l'époque, la Chine est encore un pays assez fermé, mais au début des années 2000, les Chinois veulent s'ouvrir davantage sur le monde et ont engagé une ambitieuse politique de réforme. Et ces Jeux Olympiques sont considérés comme l'aboutissement concret de ce processus. Tous ceux qui étaient présents en 2008 à Pékin se souviennent d'une capitale complètement transformée, devenue cosmopolite, une image de modernité incarnée par un stade construit pour l'occasion, le fameux Nid d'Oiseau, qui reste aujourd'hui une fierté pour tous les Chinois. Le Nid d'Oiseau, seul stade au monde à avoir été, si on peut dire, vraiment rentabilisé sur le plan olympique, puisqu'il aura accueilli deux cérémonies d'ouverture de JO 2022, donc après 2008.
Merci infiniment Sébastien Berriot. On parlait des infrastructures. Partons maintenant à Rio. Bonsoir Jean-Mathieu Albertini.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Rio. Le bilan a été jugé mauvais, là, dès la fin des Jeux.
Oui, surtout que 77 000 personnes ont été expulsées dans le cadre de l'organisation des JO. Un sacrifice nécessaire pour transformer Rio, estiment les autorités de l'époque. Mais depuis, la déception domine. La dépollution de la baie de Guanabara reste un rêve lointain quand les 150 km de lignes de trolleybus inaugurées se sont très rapidement détériorées. Un projet de station de métro est devenu un gouffre financier. C'est même littéralement un gouffre que les autorités ont rempli d'eau après l'arrêt des travaux pour éviter l'effondrement d'immeubles alentour. Si on ajoute la spéculation immobilière incontrôlée, la corruption et les infrastructures sportives délaissées, le bilan n'est pas bien glorieux.
Bon, et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu politique local ?
Oui, parce que tout n'est pas à jeter. Le tramway ou la rénovation d'une partie du centre-ville reste un bel acquis. De retour au pouvoir en 2020, le maire de l'époque, Eduardo Paes, compte bien transformer de vieilles promesses en arguments de campagne pour les municipales de 2024. Pour lui, si le plan prévu n'a pas fonctionné, c'est la faute à une succession de crises économiques et politiques combinées avec le mandat erratique de son successeur. 8 ans après, il reprend donc les inaugurations, 2 piscines, une gare routière, 4 écoles, le tout construit à partir du matériel des bâtiments olympiques. Il investit surtout dans la zone ouest de Rio, où se trouve la majorité des électeurs et où Jair Bolsonaro domine. Le maire compte du coup sur le soutien actif de son allié Lula, qui a annoncé l'installation d'un campus sur un site olympique.
Merci Jean-Mathieu Albertini. On parlait des infrastructures, Pierre Rondeau. Emmanuel Macron promettait hier qu'il n'y aurait pas d'éléphant blanc, c'est-à-dire de structures sportives qui ne soient ensuite réutilisées. C'est possible ?
Mais ça sera le cas, je pense. Mmh. Finalement, ce qui a été construit pour l'événement, c'est le bassin aquatique à Saint-Denis. Essentiellement, c'est le village olympique qui sera réhabilité, c'est le Media Center. Mmh.
Et après, on fait de belles images à Versailles, on fait de belles images au Grand Palais.
Exactement. Alors, c'est pour ça qu'aussi beaucoup de Parisiens et Parisiennes critiquent l'événement, c'est que l'événement aura lieu dans la ville. Mmh. Et on fera des infrastructures éphémères au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars et ailleurs. Donc, on n'aura pas d'éléphant blanc, de fait. Mais, comme c'est dans la ville, on va déranger les Parisiens. À Rio, ça a été précisé, mais à Rio, les événements avaient lieu 30 km aux abords de la ville. Et on avait construit. Là, on construit peu et on dérange les Parisiens.
Merci beaucoup. Merci Pierre Rondeau d'avoir été l'invité d'Un jour dans le monde. À bientôt.
Le 18-20, Christelle Rebière sur France Inter.
La suite ce soir, c'est une 3e escale en Polynésie sur le plastique Odyssée qui sensibilise à la lutte contre la pollution plastique et sur lequel on mange du bio local. Et pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
En Inde, une histoire qui mêle religion, star du cinéma et antilope noire.
Le monde à 18h50, c'est avec vous Frédéric Saïs et il est interdit de fumer.
Absolument, bientôt une génération sans tabac au Royaume-Uni. Je vous parle ce soir d'une loi très controversée outre-Manche.
Le cinéma en VO. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir, on va parler aujourd'hui de résilience avec le danseur Stephen McRae du Royal Ballet de Londres qui remonte sur scène après une grave blessure. Il se raconte dans un documentaire.
A tout de suite, on part aux États-Unis avec de la folk pure et dure des années 60. Karen Dalton, Little Bit of Rain.
If I should leave you, remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain. Mm-hmm.
troisième escale du Plastique Odyssée, ce bateau laboratoire qui sillonne les mers du monde en quête de solutions pour réduire la pollution plastique. Nous sommes à Tahiti. Les curieux sont nombreux, les conférences s'enchaînent, les échanges avec des chefs d'entreprise. Pendant ce temps, en cuisine, puisque vous avez compris qu'on était en cuisine, on mange végétarien sur le bateau et les emballages sont limités. Le chef, Adrien Bronsard, va faire des courses avant la prochaine grande traversée. Il privilégie les produits frais et locaux sans passer par le supermarché. C'est un reportage de Quentin Pommier et Marco Bédé.
Du riz sauté aux légumes, voilà le repas de ce midi.
Tu vas aller voir dans la chambre froide ce qu'il nous reste en stock.
Si Audren Bronsard, le chef cuisinier du bateau, ne veut pas proposer le même menu tous les jours, il va falloir refaire le plein de vivres.
Ça, c'est les cadeaux qu'on nous a fait à Mangareva avant de partir. Des avocats, des pamplemousses, des ananas ici, de la papaye. Mais c'est vrai que les stocks, ils ont bien diminué depuis qu'on les a refaits. Il faut qu'on remplisse un peu la chambre froide avant de partir pour avoir aussi la variété de produits.
Avec ses caisses sous le bras, il doit se rendre dans une exploitation agricole à Tahiti. La végétation est luxuriante. Des herbes folles poussent un peu partout. La voiture s'arrête dans la ferme bio de Jean-Baptiste Tavanaï.
T'as combien de types de fruits et de légumes différents ?
Ben là, en ce moment, j'ai des patates douces, hein, les maniocs, taro, les bananes rio et quelques courgettes. Voilà.
Voilà, on est là pendant 2 semaines, mais après on se prépare aussi à partir pendant à peu près 2 semaines aussi en mer. Et donc du coup, il y a besoin de faire des stocks.
Ah, des stockages.
Ouais, de faire un peu de stockage avant de partir. Alors c'est vrai que tu vois, tu vois manioc, le taro, ça c'est des trucs, c'est génial parce que ça se garde facile quoi. Tu sais, même on peut les laisser pendant 1-2 mois dans le frigo tranquille. Il va aller tirer le manioc. Ça c'est compliqué.
Et voilà. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça comment en fait tu cuis à l'eau. Excellent.
Ah. Croquer un petit peu dedans, je crois.
Ouais, ça va, ça, c'est les jeunes. C'est pas les blancs. Hein. C'est les jaunes.
Ça fait un peu, blancs, c'est un peu sucré quand même, c'est cool. Ouais. Ça fait un peu texture, ouais, je sais pas, cœur de palmier ou. Assez. Je saurais pas décrire en fait.
Là, c'est des cultures sans eau, hein, comme je répète toujours, même en thème de légumes, hein, je fais sans irrigation, rien. Okay. Voilà.
T'as pas de problème justement à cause de ça qui...
Si tu nettoies trop le sol, tu dégages trop de la verdure, c'est normal qu'il va sécher quoi. Du coup, il y a la zone de repos, la zone de refuge pour les insectes, hein. Ces arbres-là, je laisse pour les éperviers.
Sur ces 14 hectares, Jean-Baptiste essaie au maximum d'avoir recours à des produits naturels.
Alors, là, en fait, on utilise encore le plastique. Hein. C'est 2,5 km les rouleaux de film plastique. Hein. Sur 1,20 m de large, j'utilise 3 rouleaux l'année. On est en attente de la machine. Hein. Pour remplacer le plastique, on va mettre plutôt du vétiver. C'est une plante que tu plantes. Hein. Et ensuite, tu récupères les feuilles, tu tisses avec la machine. Et il peut résister pour 4 mois. Et après, ça se décompose. Et comme c'est de la matière végétale, ça devient de la matière azotée. Et c'est de la matière organique au final. Et voilà le bac, attends. Ouais, les taro, il y a les bananes, alors il y a les papayes, voilà, patates douces, c'est bon.
Ouais, là je crois qu'on a un panier qui est bien garni, là, ça va être pas mal ça.
Allez, pour moi le coffre. Voilà. Fais attention sur la route. Hein. Allez,
manger, faire plaisir aux gens, c'est ce que j'aime faire. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, il y a une certaine pression parce que c'est ça qui fait les humeurs de chacun, qui fait que tout le monde fait un bon travail parce qu'il a bien mangé, tout le monde est content, c'est quelque chose d'assez de très important.
Ce soir-là, Audren a mis toutes les chances de son côté avec un tiramisu en dessert.
Miam. Et demain, nous rencontrerons le cofondateur du projet Plastique Odyssée. L'actualité passée sous les radars avec Kevin Dufraîche.
Desde Semana Santa, nosotros limitamos.
Nous sommes d'abord entre l'Équateur et la Colombie, où les réseaux électriques sont très tendus.
Oui, à cause de la sécheresse provoquée par El Niño, les cours d'eau sont au plus bas et donc avec eux la production hydroélectrique. Résultat, la Colombie a décidé hier par la voix de son ministre de l'Énergie, que l'on entendait à l'instant, de ne plus exporter d'électricité vers son voisin, l'Équateur, parce qu'elle peine déjà à répondre à la demande de ses 50 millions d'habitants. Résultat, côté équatorien, le gouvernement annonce la mise en place d'un rationnement temporaire de l'électricité. Ça crée donc des coupures et des remous politiques aussi. Le président Daniel Noboa a limogé dans la foulée son ministre de l'Énergie, décrété que le secteur était, je cite, en urgence. Il parle de corruption, de sabotage aussi, sans qu'il en dise plus, qui aurait touché les infrastructures énergétiques du pays, alors qu'un référendum important sur la lutte contre les gangs a lieu dimanche en Équateur. Le chef de l'État qui promet par ailleurs que les Équatoriens ne paieront que 50% de leur facture d'énergie ce mois-ci.
Voici en Inde où une superstar de Bollywood a échappé à la mort.
Oui, il s'agit de Salman Khan, acteur de 58 ans, plus de 100 films à son actif, 70 millions d'abonnés sur Instagram. Dimanche matin, deux hommes à moto tirent sur son appartement de Bombay dans lequel il se trouve avant de prendre la fuite. Ils ont été arrêtés hier par la police près d'un temple. Précision importante parce que les deux suspects ont un mobile très précis. Ils s'en prennent à Salman Khan parce qu'en 1998, sur le tournage d'un film au Rajasthan, il a tué deux antilopes noires, considérées comme sacrées par les Bishnoïnes, secte religieuse issue de l'hindouisme très présente au Rajasthan et qui considère cette espèce comme étant la réincarnation de leur gourou. Les deux assaillants sont donc Bishnoïs. Ça fait 20 ans que Salman Khan est menacé pour cette raison. Il vit d'ailleurs sous protection policière. Il avait été condamné à 5 ans de prison en 2018 pour avoir tué ses antilopes, mais sa condamnation a été suspendue quelques jours après son arrivée en détention.
Enfin, nous sommes en Argentine où l'on mange de moins en moins de bœuf.
Et ce n'est pas rien dans un pays où la viande bovine est une institution, une fierté nationale même, mais le bœuf argentin fait clairement les frais de la situation économique dans le pays. Moins 18,5% de consommation en un an en moyenne, 42,6 kilos de bœuf par argentin. Tout de même, c'est deux fois plus qu'un Français, mais c'est 10 kilos de moins que l'an dernier. C'est du jamais vu. Il faut dire que le prix de la viande à la découpe a augmenté de 278% sur un an en Argentine. L'inflation est affolante. Alors, on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle pour la planète, hein, en un sens, puisque pour rappel, produire un kilo de bœuf émet quatre fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de volaille. Mais enfin, pour l'instant, le changement de régime alimentaire des Argentins n'a pas d'effet sur la production de viande bovine. 750 000 tonnes produites dans le pays. Rien que pour le premier trimestre, ça reste stable et les exportations, elles, augmentent. Ça, c'est pas vraiment bon pour le climat.
Bref, rien n'est jamais simple.
Comme vous dites.
Merci Kevin. Nous, on part en Angleterre retrouver le dernier single de Idols, Grace.
Hold me in my brother's arms.
Idols Grace, et je vous conseille d'aller regarder le clip. Il revisite l'un de ceux de Coldplay grâce à l'intelligence artificielle et c'est franchement extrêmement troublant. Le Monde à 18h50, c'est Frédéric Seyss.
Christelle Robière. Le 18-20.
Frédéric, ce qui a retenu votre attention ce soir, c'est ce qui se passe outre-Manche. Le gouvernement britannique veut créer la première génération sans tabac.
Oui, les pouvoirs publics ne veulent plus mégoter contre la cigarette. Place aux mesures drastiques. La loi examinée hier par les députés britanniques prévoit d'interdire à vie la vente de tabac aux jeunes qui sont nés après 2008, c'est-à-dire tous ceux qui ont aujourd'hui moins de 16 ans. Interdiction à vie, autrement dit, ces mêmes jeunes ne pourront pas davantage acheter de cigarettes quand ils auront 20 ans, 30 ans ou 50 ans, si cette loi passe. L'idée est effectivement de créer une génération sans tabac, puis d'éteindre peu à peu le tabagisme. Le Royaume-Uni serait le premier pays à aller aussi loin. Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak met en avant la santé publique, bien sûr. Selon lui, 500 000 de cancers et de maladies du cœur pourraient être évités d'ici à la fin du siècle. Le gouvernement chiffre par ailleurs le coût du tabac à 20 milliards d'euros annuels entre les hospitalisations et les pertes de productivité lié à la pause clope, si, si. 20 milliards d'euros, soit bien au-delà de ce que rapportent les taxes sur les cigarettes, 12 milliards par an. En somme, le tabac est aussi mauvais pour la santé des finances publiques.
Et ce projet de loi a-t-il une chance d'être adopté ?
Hier, en deuxième lecture, il a été largement soutenu par les députés, mais il doit encore être approuvé mi-juin à la Chambre des Lords. D'ici là, une bataille d'amendements se prépare. Les lobbies du tabac cherchent à repousser le texte ou à l'amoindrir, par exemple en décalant l'âge d'interdiction ou en continuant à autoriser les cigares. Le cigare cher à Winston Churchill, héros de la Seconde Guerre mondiale, idole des conservateurs. Comment le parti de Churchill peut-il s'imaginer interdire les cigares ? C'est une folie, s'étrangle Boris Johnson, le fantasque ancien Premier ministre. Il n'est pas le seul au sein de la famille conservatrice à s'élever contre ce projet. 60 députés de la majorité ont manqué à l'appel lors du vote. Il a fallu les voix de l'opposition travailliste pour adopter provisoirement ce texte.
Les frondeurs au sein des Tories rejettent cette loi anti-tabac au nom de la liberté individuelle.
Avec une expression emblématique de nanny state, l'État nounou, les pouvoirs publics qui décident pour vous de ce qui est bien ou mal. À rebours de la philosophie conservatrice, estime Liz Truss, l'ex-première ministre, philosophie qui protège la liberté individuelle, dit-elle. Et après la cigarette, ce sera quoi ? Ce sera l'alcool ? S'interroge Simon Clark, autre figure conservatrice, tout autant agacée par cet état nounou qui prétend remplacer le libre arbitre. Réponse du conseiller santé du gouvernement, Chris Whitty, dans une tribune au journal The Guardian. Le tabac n'est pas un choix puisque le libre arbitre est aboli par la addiction, autrement dit, ne vous laissez pas enfumer.
Merci Frédéric et à demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO avec Corinne Pellissier.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
My Achilles snapped on stage.
You will realize that it's necessary to stop the performance.
I was there thinking that that's it. Career finished.
Et on reste en Angleterre, à Londres, ce soir, pour un documentaire consacré à l'une des stars du Royal Ballet, le danseur Stephen McRae. De retour sur scène à 38 ans, après une grave blessure au tendon d'Achille, le réalisateur français Stéphane Carrel l'a suivi durant toute la période de sa convalescence pour livrer un très beau film, Resilient Man, sur l'histoire universelle d'un homme qui chute et qui se relève, Corinne.
Il revient de loin, Stephen McRae. Un an avant de remarcher après sa blessure, un an de plus avant de pouvoir à nouveau fouler une scène. Resilient Man est avant tout une histoire de persévérance qui nous raconte la capacité d'un homme à se relever. Une histoire universelle qui va sans doute trouver écho chez de nombreux spectateurs. En tout cas, c'est pour cette raison que Stephen McRae a accepté pendant 2 ans et demi de se laisser filmer, dans son intimité, chez lui, avec ses coachs, avec son équipe médicale. 2 ans et demi de doute, de peur, de douleur à l'issue d'une blessure survenue en plein spectacle. En 2019, le tendon qui se déchire et tout un monde qui s'écroule.
Quand on a décidé de faire le film, j'étais très conscient du fait que je pourrais très bien ne jamais remonter sur scène. Mais il fallait aller au bout de cette histoire qui résonnerait forcément, quoi qu'il arrive, avec la réalité de quelqu'un. Tous les jours, où que vous soyez sur cette terre, vous rencontrez des obstacles. Et c'est de ça que parle le film. Moi, j'ai toujours eu la danse dans le sang. Alors, quand je suis tombé et je me suis sectionné le tendon d'Achille, je me suis dit, il faut y retourner. Rien de ce qui t'arrive ne doit définir qui tu es. Je ne voulais pas que cette blessure décide pour moi. Tu ne danseras plus, c'est terminé. Ah non, certainement pas. Et il est là le message du film. Je voulais que les gens, grâce à lui, se sentent forts et trouvent en eux le moyen de se relever. C'est un message universel.
Le récit raconté à la première personne est puissant, rempli d'images d'archives, de vidéos, de photos, qui renvoie à son quotidien et aussi aux grands moments de sa carrière. Stephen McRae a tout dansé, Casse-Noisette, Gisèle, Roméo, Juliette. Il fait partie des stars du Royal Ballet de Londres.
Alors c'est un film à la dimension très cathartique, mais pas seulement. Stephen McRae veut aussi utiliser sa notoriété pour adresser un message aux autres danseurs.
Quand on le voit aujourd'hui sauter, danser, on a du mal à imaginer le parcours du combattant pour parvenir à remonter sur la scène du Ballet Royal. Beaucoup de médecins lui avaient laissé entendre qu'il ne redanserait plus, que le niveau de tension, le rythme, la danse à un tel niveau ne serait pas compatible avec sa blessure. Alors Stephen McRae, fort comme jamais, se livre ici pour que ça n'arrive pas à d'autres. Ce film doit servir aussi à favoriser de nouvelles pratiques, à faire bouger les mentalités sur le sujet des blessures dans le sport, souvent tabou.
Lorsque vous vous blessez dans le sport, bien sûr c'est terrible, mais tout le monde s'y attend et le comprend. Ça fait partie des risques. Dans le milieu de la danse, c'est plutôt « Ah, tu es blessé, tu es faible ». Tu ne sers à rien, du coup on te remplace par quelqu'un d'autre, tu sors. C'est pour ça que les danseurs montent tous sur scène pétris de douleur. Juste avant de me rompre le tendon, j'étais farci de médicaments pour être capable de supporter tout un tas de douleurs. On attend de vous d'être au top tous les jours, tout le temps, à l'entraînement, 6 jours sur 7. Mais physiquement comme mentalement, c'est impossible. Du coup, le film doit servir à mettre en évidence les pratiques et les faire évoluer. Ça doit changer. Au Ballet Royal, par chance, non seulement on en a conscience, mais on agit. On soutient les danseurs quand ils sont blessés. On a des équipes médicales dédiées. Bien sûr, toutes les compagnies du monde ne pourront pas se permettre un tel dispositif, mais on peut avancer ensemble pour améliorer la condition et la santé des danseurs.
Voilà, le film s'appelle Resilient Men par le réalisateur Stéphane Carrel en salle ce mercredi et on y court. Merci Corinne Pellissier. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Éric Delvaux et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Vous êtes notre rédacteur en chef et vous ne buvez que de l'eau.
Comme Jean-Claude Van Damme, figurez-vous.
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y aura plus. J'espère que non.
Ah oui, extrait d'un fameux reportage avec l'acteur belge. J'adore l'eau. On parle de l'eau ce soir au téléphone, sonne en bouteille au robinet, dans une carafe filtrée. Où puisez-vous l'eau que vous buvez? Comment vous assurez-vous de sa qualité? Olivier d'Annecy, je bois de l'eau du robinet car je pense qu'elle est mieux contrôlée que l'eau en plastique. Cyril, sur WhatsApp, ne devrait-on pas davantage agir sur le préventif des aides ciblées aux agriculteurs, aux pratiques vertueuses pour éviter d'acheter de l'eau en bouteille, pour éviter d'investir dans des traitements coûteux, pour dépolluer l'eau. Et puis Cathy sur WhatsApp, l'eau en bouteille, mais surtout pas, elle ajoute un emoji, quelle horreur. Nous avons en France une des meilleures eaux du robinet et la production de bouteilles en plastique est une source de pollution énorme. Emoji, je pleure. Vive les gourdes en inox.
Eh bien c'est prometteur. Rendez-vous 19h20, numéro au téléphone et sur WhatsApp 01 45 24 7000.